présente l'Odyssée d'Homère, traduction de Philippe Jacotet, suivi de Des lieux et des hommes de François Hartog, lu par Gaël Camilindi.
Chant 1. Le poète prie la muse de lui rappeler l'histoire de l'inventif. Puis le récit commence. Tandis qu'Ulysse, seul de tous les survivants de la guerre de Troie, est encore retenu loin des siens par Calypso, les dieux, profitant de l'absence de son principal ennemi, Poséidon, s'assemblent et décrètent son retour. Athéna se rend alors à Ithaque sous les traits d'un roi ami d'Ulysse. Conversant avec Télémaque, cependant que les innombrables prétendants de Pénélope s'adonnent insolemment au plaisir du festin, elle lui laisse entendre que son père est encore vivant, en ravive le souvenir et ranime l'ardeur du jeune homme. Elle lui conseille de convoquer les Itaciens dès le lendemain, de désavouer publiquement les prétendants et de se rendre à Pylos et à Sparte pour interroger Nestor et Ménélas sur le sort de son père, leur compagnon d'armes. Puis elle disparaît, comme un oiseau de mer. C'est alors que la reine Pénélope, ayant entendu de son étage Laède chanter le retour de Troie, descend pour le prier de trouver un thème qui lui soit moins pénible. Mais Télémaque, soudain conscient de son rôle de maître, la renvoie à ses ouvrages. Les prétendants manifestent bruyamment leur désir. Télémaque les apaise, la fête reprend et ne s'achève qu'au soir. Le prince gagne alors sa chambre et toute la nuit, médite les conseils d'Athéna. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie et le retour de ses marins sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus, en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du dieu d'en haut, le soleil qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits. Tous les autres, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, se retrouvait chez eux, loin de la guerre et de la mer. Lui seul, encore sans retour et sans femme, une royale nymphe, Calypso, le retenait dans son antre profond, brûlant d'en faire son époux. Et, lorsque dans le cercle des années vint le moment où les dieux avaient décidé qu'il rentrerait chez lui, en Ithaque, il trouva de nouvelles épreuves jusque parmi les siens, et son sort touchait tous les dieux, hors Poséidon qui poursuivit sans cesse de sa haine l'égal des dieux jusqu'à ce qu'il fût au pays. Mais Poséidon était parti chez les visages noirs, peuple coupé en deux, au bout du monde, une part au couchant, l'autre au levant, pour l'hécatombe des agneaux et des taureaux. Tandis qu'avec délice il banquetait, les autres dieux s'étaient tous rassemblés dans le palais de l'Olympien. Le roi des hommes et des dieux prit alors la parole. Il pensait dans son âme au noble Égiste que tua le fameux Oreste, fils d'Agamemnon. Tout à ce souvenir, il dit ces paroles ailées. Hélas, voyez comment les mortels vont juger les dieux. C'est de nous que viendraient tous les malheurs, alors qu'eux-mêmes, par leur propre fureur, outrant le sort, se les attirent. Ainsi qu'on vit Égiste, outrant le sort, prendre à l'Atride sa femme légitime et le tuer à son retour, sachant la mort qui l'attendait, puisque nous l'avions prévenu par l'entremise du veilleur éblouissant Hermès de ne pas le tuer, de ne pas rechercher sa femme. Car Oreste viendrait lui en faire payer le prix dès qu'il aurait grandi et désirerait sa patrie. Ainsi parla Hermès, bienveillant, sans persuader les entrailles d'Égiste. Et maintenant, quel prix il a payé? Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, ce n'est qu'un juste corps qui a couché celui-là, et que quiconque en voudrait faire autant périsse ainsi. Mais quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend. L'infortuné. Depuis longtemps, il souffre loin des siens, dans une île des eaux au milieu de la mer. Dans les bois de cette île, une déesse loge, la fille du féroce Atlas qui connaît les abîmes de la mer et qui porte à lui seul les colonnes puissantes par lesquelles terre et ciel sont séparés. C'est elle qui retient le malheureux inconsolable et ne cesse de l'assiéger d'insidieuses douces litanies pour qu'il oublie Ithaque. Mais Ulysse, rêvant de voir ne fût-ce que monter une fumée du sol natal, voudrait mourir. Ô maître de l'Olympe, ton cœur sera-t-il sourd? N'est-ce donc plus le même Ulysse qui t'agréait jadis, sacrifiant près des vaisseaux grecs dans la plaine de Troie? Pourquoi te serait-il odieux? Celui qui s'est rallié les nuages lui répondit: mon enfant, quel propos t'est-il donc échappé? Comment pourrais-je perdre souvenir d'Ulysse, le plus intelligent et le plus généreux des hommes pour les dieux immortels qui possèdent le ciel immense? Mais Poséidon, seigneur des terres, lui en veut encore pour ce cyclope dont il a crevé un œil. Polyphème, l'égal des dieux et le plus fort de sa race, la nymphe Toussa le mit au monde, la fille de Phorcys, prince de la mer sans moisson, dans ses antres profonds à Poséidon s'étant uni. Et c'est pourquoi celui qui secoue le sol, sans tuer Ulysse, le retient loin du domaine de ses pères. Mais voyons, réfléchissons tous à son retour. Trouvons comment le ramener. Poséidon finira par s'apaiser, car il ne pourra pas combattre à lui seul contre tous les autres immortels. Athéna, dont l'œil étincelle, répondit: ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, s'il est vrai qu'en ce jour il plaise au bienheureux que le sagace Ulysse rentre enfin dans sa demeure, dépêchons donc Hermès, le messager éblouissant, à l'île d'Ogygie, afin qu'il transmette au plus vite à la nymphe bouclée notre irrévocable décret, le retour du patient Ulysse en sa patrie. Pour moi, je gagnerai Ithaque, afin de ranimer le zèle de son fils et pour lui donner le courage de convoquer à l'agora les Grecs aux longs cheveux et d'y désavouer les prétendants qui, tous les jours, lui saignent ses moutons et ses fauves paisibles bœufs. Je l'enverrai à Sparte et à Pylos, ville des sables, s'enquérir du retour de son père, s'il est possible, afin qu'il en acquière bon renom parmi les hommes. Cela dit, à ses pieds, elle mit ses belles sandales divines, toutes d'or, qui la portent en lieux humides et sur la terre sans limite avec la vitesse du vent. Elle emporta sa forte lance à la pointe de bronze, la grande lourde lance avec quoi la fille du fort, déchaînée, fait s'abattre les héros rang après rang. Elle fondit du haut des cimes de l'Olympe, et en Ithaque, s'arrêta devant l'entrée d'Ulysse, sur le seuil de la cour. Sa lance de bronze à la main, elle avait pris l'aspect de Mentès, prince de Taphos. Elle trouva devant les portes les fiers prétendants qui se distrayaient l'âme en jouant avec des jetons, installés sur les peaux des bœufs qu'ils avaient abattus. Des héros, d'agiles suivants, officiaient. Les uns mêlaient le vin et l'eau dans les cratères, d'autres, avec l'éponge alvéolée, lavaient les tables et les leur avançaient. D'autres encore tranchaient les viandes. Télémaque, pareil au dieu, le premier l'aperçut. Il était là, parmi les prétendants, plein de tristesse, songeant à son bon père et l'imaginant de retour qui dispersait les prétendants par la demeure, recouvrait son pouvoir et la gérance de ses biens. Songeant ainsi parmi les prétendants, il vit Pallas et, indigné qu'un hôte eût attendu devant la porte, alla droit à l'entrée et s'approcha de la déesse. Il lui prit la main droite, il la déchargea de sa lance. Puis il lui adressa ces paroles ailées: salut et bienvenue, étranger. Tout à l'heure, une fois restauré, tu nous diras ce qui t'amène. Il conduisit alors la déesse qui le suivit. Lorsqu'ils furent à l'intérieur de la haute maison, il déposa la lance au flanc d'une grande colonne à l'intérieur du râtelier poli où se dressaient déjà les autres lances du patient Ulysse. Puis, il la conduisit à un fauteuil qu'il recouvrit de beau lin ouvragé. Au pied était un escabeau. Lui prit un siège orné qui l'éloigna des prétendants de peur que l'étranger, importuné par leur vacarme et mêlé à ses arrogants, ne mangeât sans plaisir, et pour l'interroger sur son père toujours absent. Une femme, portant dans une belle aiguière d'or l'eau lustrale, en versa pour le rincer des mains, dans un bassin d'argent, et leur dressa une table polie. Puis la digne intendante s'avança, portant le pain, et généreusement les entretint sur ses réserves. Le tranchant présenta des plats de viandes assorties, à bout de bras, posa les coupes d'or devant chacun, et le héros, souvent, s'avança pour les leur remplir.